Merci Seigneur Esprit Saint de venir sur notre assemblée, sur chacune des personnes qui est dans cette église, même si elle ne te connaît pas, même si elle ne sait pas qui tu es. Seigneur Esprit Saint, viens sur chacun de nous pour ouvrir nos cœurs à ton amour, la présence de Jésus parmi nous, à l'amour du Père. Merci Seigneur Esprit Saint pour toutes les personnes que tu as fait venir dans cette assemblée. D'ores et déjà, nous te confions toutes celles qui sont malades, toutes celles qui souffrent. Te confions toutes les personnes que nous portons dans notre cœur, toutes les intentions qui ont été déposées dans la corbeille, toutes celles qui sont dans nos cœurs. Viens, Seigneur, agir pendant cette parole que je vais lire, cette parole de Jésus, qui commence l'œuvre de guérison dans notre cœur. De l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Alors tout à l'heure, Thibaut nous a proposé de dire à notre voisin, nous ne nous étions pas concertés, mais de dire à notre voisin, Je prie pour que tu connaisses mieux Jésus. Autrement dit, je prie pour que tu deviennes le disciple de Jésus. Et si l'on veut devenir disciple de Jésus, ça veut dire qu'on accepte de prendre au sérieux sa parole. Autrement dit, l'Évangile, ce n'est plus simplement un beau roman ou un livre très spirituel qu'on lit comme un livre, mais ça devient vraiment la parole de Dieu. Et à ce moment-là, cette parole devient vivante. Ce n'est plus une parole morte, c'est une parole qui nous parle. Une parole qui agit en nous, une parole puissante qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous conduit. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience que la parole nous parle. Ce n'est pas simplement comme je lis un beau roman ou un beau poème, ça peut aussi me parler, mais là c'est quelqu'un qui me parle, c'est Jésus qui me parle dans cette parole. Donc ce soir il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire quoi demeurer dans la parole de Jésus? Ça veut dire non seulement l'entendre, mais ça veut dire aussi la garder. La parole devient comme une maison dans laquelle on habite, une maison qui s'agrandit au fur et à mesure où notre vie spirituelle grandit et on connaît de mieux en mieux la parole. Réfléchissez dans votre cœur, si quelqu'un vous demande par exemple, est-ce que tu connais une parole de la Bible? Est-ce que vous êtes capable d'en citer au moins une par cœur? Bon, certains ont peut-être plusieurs, certains peut-être vaguement. Voilà, demeurer dans la parole, ça veut dire apprendre des paroles par cœur, et les faire demeurer dans notre cœur. Et cette parole est vivante, elle va transformer nos vies. Alors évidemment, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on se dit, ben, il raconte ça, c'est bien gentil, mais est-ce que c'est vrai? Ben, essaie, tu vas voir. Tu vas voir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Autrement dit, si je me dis disciple de Jésus, mais je ne connais pas sa parole, non, je ne suis pas son disciple. Je ne suis pas encore son disciple. Je crois l'être, mais je ne le suis pas. Donc pour être le disciple de Jésus, il faut demeurer dans sa parole, l'écouter, la prendre par cœur, la méditer, prier avec cette parole. Et si vous êtes mes disciples, et si vous demeurez dans ma parole, Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors la plupart des personnes, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que la liberté, vous voyez, vous faites un petit micro-trottoir dans la rue, vous êtes sûr de recevoir à 95% la même réponse, voire plus que 95%, être libre, c'est faire ce que je veux. Voilà, si je fais ce que je veux, je suis libre. Oui, mais le problème, c'est que ce « je » qui veut, à quel niveau de moi il se situe? Est-ce qu'il se situe au niveau superficiel ou au niveau profond? Et on s'aperçoit que quand on, simplement, une personne qui décide de faire ce qu'elle veut, donc mettant qu'elle décide de faire ce qu'elle veut avec son « moi » superficiel, donc elle va faire vraiment ce qu'elle veut. À chaque fois qu'elle a un désir, elle va le faire. Eh bien, au bout de quelques temps, elle va se détruire. Au bout de quelques temps, non seulement elle n'aura plus d'amis, parce que comme elle fait ce qu'elle veut, elle va embêter tout le monde, elle ne prendra plus soin des autres, elle ne s'occupera plus des autres, mais elle va se détruire elle-même. Ça, c'est une expérience immanquable, c'est inévitable. Donc, si je fais simplement ce que je veux, en écoutant simplement mes désirs superficiels, eh bien, paradoxalement, je ne suis pas libre, je suis esclave de mes désirs, de mes passions. Je vais bientôt avoir des addictions parce que je vais vouloir faire des choses pour avoir plus de plaisir. Ça va créer des addictions. Et moralité, je serai esclave. Alors quand Jésus dit aux Juifs, si vous écoutez ma parole, cette parole vous fera connaître la vérité qui vous libérera, les Juifs sont très offusqués parce qu'ils se disent, mais nous on est libres. Nous on est libres, comment tu nous dis qu'on n'est pas libres? Et la plupart des gens, je suppose, dans notre pays, en France, pensent qu'ils sont libres, alors qu'en réalité, ils ne sont pas libres. Et la vraie définition de la liberté, ce n'est donc pas simplement faire ce que je veux, parce que ça, ce n'est pas la définition de la liberté. La définition de la liberté, la vraie, c'est être capable d'aimer. C'est ça la définition de la liberté. Celui qui est libre, c'est celui qui est capable d'aimer son prochain. Lui, il est libre. Lui, il est capable de renoncer à lui-même, de se maîtriser pour aider les autres, de penser aux autres. Lui, il est vraiment libre. Lui, il peut éprouver dans son cœur qu'il est libre, qu'il n'est pas asservi à ses passions intérieures. Donc pour être libre de cette liberté que bien peu de personnes possèdent, parce qu'en réalité on est tous plus ou moins pas libres, pour entrer dans cette liberté que Jésus nous propose, eh bien il faut écouter sa parole qui va nous faire connaître la vérité. Et la vérité c'est quoi ? Eh bien, c'est la vérité sur Dieu, que Dieu nous aime, qu'il est miséricorde. Vous savez, on a fait un sondage il y a quelques années et on a essayé de demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu. Et on s'est aperçu que plus les gens priaient, plus ils disaient « Dieu est amour ». Moins ils prient, et bien plus ils pensent que Dieu est un Dieu justicier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je ne prie pas, que je ne lis pas la Bible, je fais Dieu à mon image, à l'image de ce monde. Et comme ce monde il est dur, comme dans mon cœur il y a de la violence, j'imagine que Dieu il est dur et violent, comme moi je suis en fait. Mais si je prie, si je laisse le Seigneur transformer mon cœur, si je laisse le Seigneur mettre dans la miséricorde dans mon cœur, alors je vais découvrir la vraie image de Dieu, la vraie réalité de Dieu qui est amour et miséricorde. Je vais connaître la vérité et cette vérité va me libérer parce que je vais pouvoir me confier à ce Dieu. Je vais pouvoir aller lui demander pardon, il va me libérer de ma culpabilité, il va me conduire par sa parole. Et puis aussi, il va me révéler qui je suis à moi-même. Vous savez que peut-être, ou vous ne savez pas, que Saint Dominique, une de ses grandes prières, c'était « Seigneur, dis-moi qui tu es et dis-moi qui je suis. Dis-moi qui je suis. » On ne se connaît pas soi-même. Beaucoup de gens ignorent complètement qui ils sont. Parce que pour savoir qui nous sommes, nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous a créés et qui nous dit qui nous sommes, ce à quoi nous sommes destinés. Et tant que nous n'avons pas cette parole de Dieu, nous sommes comme à la surface de nous-mêmes, comme de l'huile qui flotte sur l'eau, vous savez. Voilà. On n'est pas entré en nous, on n'est pas entré à l'intérieur de nous, dans le moi profond. Dans le moi profond de nous-mêmes sont nos désirs réels, le je véritable, celui qui aspire au bonheur véritable, celui qui aspire à la vérité, celui qui aspire à aimer. Ce je-là, ce moi-là, le Seigneur veut nous le découvrir. Il veut nous découvrir qu'on n'est pas simplement des êtres, si j'ose dire, nuls. Il veut nous découvrir qu'au fond de nous-mêmes, il y a un trésor incroyable, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il veut nous découvrir qu'au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous ignorons nous-mêmes parce que nous flottons simplement à la surface de nous-mêmes et que nous ne rentrons pas dans la profondeur de nous-mêmes par la prière. C'est cette vérité-là sur Dieu et sur nous-mêmes qui va nous rendre libres, parce qu'on va découvrir toute la capacité d'aimer que Dieu nous a donnée. On va découvrir que Dieu nous a destinés au bonheur et nous a destinés à l'amour. Alors, le Seigneur, pour nous montrer qu'il nous aime, il opère de nombreuses guérisons dans cette assemblée. Il en fait tous les jeudis. Tout à l'heure, Gisèle, qui s'occupe de l'équipe d'accueil, me disait que quelqu'un est venu lui témoigner, qu'il est venu prier pour un enfant qui avait une leucémie foudroyante en phase terminale, et il remercie le Seigneur parce que maintenant il est guéri et il va à l'école. Et bien, le Seigneur l'a complètement restauré. Le père Benoît, qui est là, qui vient du diocèse, qui vient de Vannes, du diocèse de Vannes, qui est prêtre à Vannes, m'a témoigné tout à l'heure qu'une de ses paroissiennes est venue à Saint-Nicolas-des-Champs. Elle était en train de perdre la vue, sa vue était réduite à peu de choses. Et quand elle est revenue chez elle, le soir même, elle avait retrouvé sa vue. Elle avait retrouvé une vue normale. Merci Seigneur pour cette guérison. Donc, ça fait déjà deux guérisons que je viens d'apprendre, mais je vais vous en donner d'autres parce que le Seigneur a envie de nous guérir, de nous montrer son amour si nous mettons notre foi en lui. Si nous disons Seigneur, Seigneur, j'accepte d'écouter ta parole, j'accepte de me convertir, j'accepte de sortir de mon égoïsme et d'aimer les autres. Alors, par exemple, ce mail que j'ai reçu de Karine. Cher Père Thierry, je veux témoigner d'une guérison que j'ai reçue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Je souffrais depuis de nombreuses années de crises d'angoisse très fortes en société avec des rougissements très prononcés, ce qui me mettait très mal à l'aise devant les autres. Je redoutais toujours les commentaires des autres. Je me sentais étouffé. J'étais parfois jusqu'au bord de l'évanouissement. Cela m'handicapait beaucoup. En 2015, je suis allé à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, comme souvent. J'ai entendu une parole de connaissance annonçant que deux personnes étaient guéries, de fortes crises d'angoisse, l'une de façon immédiate et l'autre de façon progressive. Pour moi, ces crises d'angoisse sont parties petit à petit en diminuant beaucoup d'intensité pendant 2 mois. Puis environ 1 an, je n'en ai plus du tout. Je remercie vivement le Seigneur pour cette guérison ainsi que toute l'équipe de Saint-Nicolas, Karine. Voilà. Un autre témoignage que j'ai reçu, c'est encore un mail, de Jean. Alors, bonsoir mon père, mes frères, mes sœurs. Je vous écris avec des larmes aux yeux. Le jeudi 24 novembre, j'ai assisté pour la première fois à la prière des malades. En arrivant dans l'église, j'ai ressenti comme une immense tranquillité. D'ailleurs, j'ai cherché une place pour m'asseoir. J'en ai pas trouvé. Ensuite, je me suis mis au fond. Bon, il y en a qui doivent se sentir concernés ici parce que, voilà, je suis désolé, mais beaucoup de personnes restent debout pendant cette prière. Donc, Jean aussi était resté debout. Je me suis dit, de toute façon, je suis dans l'église, donc c'est gagné. À cet instant, j'ai ressenti cette tranquillité. Dès le début de la prière du chapelet, j'ai commencé à pleurer. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Ensuite, lors de la louange et du passage du Saint-Sacrement, j'ai ressenti une chaleur qui montait dans mes deux pieds jusqu'à mes genoux, qui montait et descendait pendant 2 à 3 fois. En fait, j'avais des difficultés à poser mes pieds en me réveillant le matin comme si j'avais fait un marathon. Je m'étais habitué à vivre avec cela, je ne pensais même plus à cela. Le lendemain matin, je pose mes pieds par terre, je ne ressens aucune douleur. Le Seigneur m'a guéri. Il dit aussi, je ressentais autour de ma tête comme un anneau de fer qui me serrait la tête, comme si on était en train de visser un anneau sur ma tête. Voilà, et il dit, eh bien depuis que je suis venu à cette prière des malades, je n'ai plus cette sensation dont j'ignorais la cause, j'ai la tête légère. Déjà en sortant de l'église, dans la foule, je voyais tous ces gens comme des âmes qui sortaient de l'église. Depuis, je ne cesse pas de rendre grâce au Seigneur Jean. Merci Jean pour ce témoignage. Voilà, je vous donne encore un témoignage de François qui m'a écrit une lettre cette fois-ci. Donc c'est à propos de son frère. Mon frère André, qui préparait une cousinade, a fait un AVC le 27 août 2015. Je lui ai rendu visite quelques jours plus tard. Le cerveau était touché au niveau de la déglutition. Il ne pouvait plus rien avaler et était nourri par sonde. Par suite, le diagnostic s'est affiné et le chirurgien lui a posé une pompe qui traverse l'abdomen et qui permet de s'alimenter. Je lui ai proposé de venir à Saint-Nicolas-des-Champs. Lui, il habite à Rennes. Je lui ai demandé de me donner une sorte d'envoi en mission par un mail de confirmation. Donc André était malade depuis le 27 août. Donc François vient prier le 5 novembre à Saint-Nicolas-des-Champs pour confier la santé de son frère au Seigneur. Une parole de connaissance a été donnée, mais je n'étais pas sûr que c'était pour lui. En fait, 3 jours plus tard, le dimanche soir 8 novembre, il m'a appelé pour me dire qu'il était guéri, qu'il pouvait à nouveau manger normalement et déglutir. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour cette guérison. Et je vais vous donner un dernier témoignage. Béatrice, elle est venue à la prière des malades fin mai 2017. Elle souffrait alors de la hanche depuis 6 mois, surtout la nuit et dans les escaliers. Elle craignait de devoir être opérée. Elle est venue, mais elle n'a pas prié pour elle-même. Quand elle a entendu qu'il était question qu'une personne était guérie de la hanche, elle s'est dit que cette personne avait beaucoup de chance, mais elle n'a même pas pensé à elle-même. La nuit suivante, elle s'est réveillée et elle a pris conscience qu'elle ne souffrait plus dans sa hanche. Elle s'est alors rappelée que dans le métro, en revenant de la prière des malades, elle n'avait pas non plus souffert. Depuis, elle rend grâce à Dieu de tout son cœur pour cette guérison. Voilà, ben merci Seigneur pour ces témoignages. Nous en donnerons encore les jeudis suivants, jeudi prochain, etc. Mais maintenant, nous allons accueillir Jésus lui-même qui vient nous guérir. Nous savons qu'il peut tout, nous l'avons entendu à travers ce témoignage. Nous allons prier, non pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les uns, pour les autres, pour notre voisin. Vous voyez, on forme un corps, c'est pas juste chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est tous pour tous et Dieu pour tous. Voilà, donc on va tous se confier mutuellement au Seigneur et implorer des guérisons pour beaucoup de personnes dans notre assemblée. Amen.